You're with SBS Radio.
La population du Victoria vote ce samedi. En France, le ministre de l'Intérieur appelle les gilets jaunes à respecter les consignes de sécurité. Et l'Espagne, une menace potentielle pour l'accord sur le Brexit. Des élections au Victoria ont lieu en ce moment et plus de 3 millions d'électeurs sont amenés à voter ce samedi alors qu'un million d'autres personnes ont déjà voté par voie postale. Pour l'emporter, la coalition libérale doit pouvoir battre les travaillistes avec une marge de plus de 3% pour les deux chambres. Le premier sortant, Daniel Andrews, va voter dans son électorat de Mulgrave et en marge de ce vote, il a déclaré à nos confrères de Sky News qu'il est confiant de pouvoir continuer à diriger le Victoria à l'issue de ce scrutin.
A positive, optimistic plan with a proven track record of delivery. That's what we offer, and now it'll be a matter for the Victorian community to make their choice.
Le chef des libéraux, Matthew Guy, a quant à lui déjà voté, mais il continue de distribuer des cartes indiquant aux électeurs comment voter. Monsieur Guy explique que l'ordre et la sécurité sont des enjeux majeurs de ce scrutin. Il a déclaré à nos confrères de Sky News également qu'il est certain que l'on connaîtra le verdict de cette élection dès ce soir.
Nowadays, with the sorting of the early votes, irrespective of how many are being voting early, there'll be sorting early and we'll have an indication of where some of that will go. So I think we'll have a pretty clear indication of what the result will be tonight.
Le dépouillement des urnes commencera dès la fermeture des bureaux de vote à partir de 18h. Le comptage des votes postaux commencera ce soir également. Pendant ce temps-là, la commission électorale du Victoria appelle les gens à se faire entendre en participant tous au scrutin de ce samedi. Marie Guérin, la porte-parole de la commission électorale, rappelle que des mesures d'assistance sont disponibles pour ceux parmi les électeurs qui ne maîtrisent pas la langue anglaise.
So at voting centres, voting screens will have instructions on how to vote in 19 languages other than English, and there will be interpreters available at most voting centres. So those interpreters will have a badge showing the language that they speak. And if you need assistance, you can ask any voting centre staff to help you.
Et en France, une semaine après leur grande mobilisation nationale, le mouvement dit des Gilets jaunes s'apprête à manifester à Paris cette fois-ci. Et à quelques heures de l'acte 2 de leur mobilisation en plein cœur de la capitale, les désaccords se tendent entre eux et le gouvernement. Les Gilets jaunes refusent de manifester sur le Champ de Mars, comme l'exige pourtant la préfecture, et sur les réseaux sociaux, un nombre d'entre eux promettent de rejoindre coûte que coûte les Champs-Élysées. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, souligne la position du gouvernement, à savoir qu'il respecte la liberté d'expression et la liberté de manifester, mais cela doit se passer dans un contexte de sécurité.
J'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité, de l'ordre public, du droit de chacun d'aller et venir, au fond, du droit de chacun d'avoir demain une vie normale. Il n'y a pas de liberté sans ordre public. Il est nécessaire que chacun entende cela. Et le droit de manifester, je souhaite le protéger. Je souhaite éviter les accidents. Je souhaite éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. De mort. C'est terrible. C'est terrible et quelle que soit la situation, quel que soit le choix, quel que soit le lieu, nous devons tous éviter que de telles situations ne se reproduisent.
Et c'est lui qui est à l'origine de la taxe carbone sur le carburant, au cœur de la colère des Gilets jaunes en France. Nicolas Hulot est enfin sorti de son silence en milieu de semaine, 3 mois exactement après sa démission du gouvernement. Invité de l'émission politique sur France 2, l'ancien ministre de l'écologie assume cette mesure, mais il demande que cette mesure soit assortie d'un meilleur accompagnement social.
Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume. Mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà.
C'est ce qui manque aujourd'hui.
C'est ce qui a manqué. Il faut le dire. Je l'ai dit à l'époque et ce n'est un secret pour personne. Il y a des contraintes budgétaires qui n'ont pas permis, en tout cas, qui n'ont pas convaincu le gouvernement d'augmenter cet accompagnement social. Il va se faire, je l'espère, maintenant. Il faut aller plus loin. D'ailleurs, moi, je pense qu'il est très important de saisir la proposition de la CFDT d'organiser rapidement, dans un format rapide, avec tous les partenaires sociaux, une réflexion sur l'affectation de la recette de la fiscalité écologique. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que tout ça, c'est révélateur, effectivement, d'une inégalité par rapport à la fiscalité, pas simplement la fiscalité écologique. Les gens savent que les avions, le kérosène des avions n'est pas taxé. Ils savent que le fuel lourd des cargos ou des porte-containers n'est pas taxé.
Et en République démocratique du Congo, deux partis d'opposition, l'UDPS et l'UNC, ont scellé hier une alliance pour la présidentielle du mois prochain. Hier, leurs leaders Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont signé un accord à Nairobi au Kenya. Principal point de cet accord, Vital Kamerhe se désiste au profit de Félix Tshisekedi qui, en cas de victoire, lui garantit le poste de Premier ministre. Les deux hommes marchent désormais main dans la main et pour une période de 10 ans. L'accord sur le Brexit va-t-il être validé ce dimanche par les 28 États membres de l'Union européenne ? Bien, le doute plane encore sur le Brexit. L'Espagne menace d'apposer son veto lors du sommet extraordinaire qui se tient demain à Bruxelles. Le chef du gouvernement espagnol a réitéré cette menace cette semaine à l'issue d'une conversation infructueuse avec Theresa May, la première ministre britannique. Pierre d'achoppement pour le Brexit, ce sera Gibraltar. Gibraltar, c'est ce territoire britannique dont Madrid revendique la souveraineté. Le premier ministre espagnol demande qu'un accord éventuel ne fige pas la situation de Gibraltar, mais que des négociations bilatérales se tiendront par la suite. Le rocher de 6 km² pourrait bien devenir le point de blocage du Brexit. Mais Hubert Pérez, professeur des sciences politiques à l'Université de Montpellier, explique l'importance stratégique de ce rocher.
La question de Gibraltar est une question qui empoisonne les relations entre le Royaume-Uni et l'Espagne depuis très très longtemps. Il y a eu des épisodes extrêmement durs. Les frontières entre Gibraltar et l'Espagne ont été bloquées de longues années, par exemple, sous le régime de Franco. Donc c'est une question qui est extrêmement importante. Mais c'est une question dans laquelle tout le monde a des intérêts. Personne n'a en réalité intérêt que la situation se crispe trop, parce que les intérêts économiques sont très partagés. L'Espagne a intérêt à avoir des relations, disons, pacifiées avec Gibraltar, et inversement, la prospérité de Gibraltar dépend très largement de la possibilité d'une libre circulation avec l'Espagne. Donc c'est un sujet important, évidemment, pour une vue de l'extérieur, c'est une petite cause. Gibraltar, c'est 6 ou 7 kilomètres carrés, donc c'est très très peu de choses, mais son importance, à la fois symbolique et économique, en tout cas pour le sud de l'Espagne, est beaucoup plus grande que ce que la superficie de Gibraltar pourrait faire croire.
Il avait lancé près de 2000 alertes à la bombe dans le monde, visant notamment des lieux communautaires juifs. Un jeune homme israélo-américain a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal israélien. Ses actes avaient fait craindre une poussée d'antisémitisme aux États-Unis après la victoire de Donald Trump aux présidentielles américaines.
Michael Ron David Kadar avait commencé à lancer de fausses alertes à la bombe en avril 2015, mais c'est dans les mois précédant son arrestation en mars 2017 qu'il avait été le plus actif. En tout, près de 2000 fausses alertes ont été déclenchées visant des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux ou des avions. Le jeune homme avait notamment ciblé plusieurs lieux communautaires juifs aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, appelant les forces de l'ordre et prévenant de l'imminence d'un attentat. Recherché par plusieurs polices du monde, Michael Ron David Kadar avait été interpellé à son domicile d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Mineur au moment des faits, il vivait alors avec ses parents. Au cours des audiences, il a expliqué avoir eu l'idée de lancer ses alertes en regardant des vidéos en ligne et en lisant des articles. L'activité, a-t-il expliqué, le mettait dans un état d'excitation. Le jeune homme souffre d'autisme et avait été déclaré inapte à servir par l'armée israélienne, une condition médicale reconnue par le tribunal pour mineurs de Tel Aviv qui a assuré que la peine aurait été plus lourde pour un adolescent en pleine santé. Mais la cour a jugé qu'il comprend très bien la portée et de ses gestes.
Et ce reportage nous a été apporté par Guillaume Delteuil de RFI. Au Mexique, Juan Manuel Castellum, le maire de Tijuana, a déclaré l'état de crise humanitaire dans sa ville. Juan Manuel Castellum a lancé un appel au gouvernement du président sortant, Enrico Peña Nieto, et aux institutions onusiennes pour faire face aux défis que constitue la présence de milliers de migrants voulant se rendre aux États-Unis. Le président élu, Andrés Manuel López Obrador, sera investi en fin de semaine et c'est lui qui sera donc en charge de ce dossier. Retour en Australie et plus précisément en Nouvelle-Galles du Sud où Madame Clover Moore, la maire de la ville de Sydney, va monter sur le traîneau du Père Noël pour lancer les festivités de Noël dans sa ville un mois exactement avant Noël. Les célébrations se dérouleront entre 18h30 et 21h30 ce soir. Des étals seront installés le long de George Street ainsi que sur le piétonnier de Pitt Street Mall et Martin Place au cœur de Sydney. Le traîneau du Père Noël conduira Madame Moore de Circular Quay à Martin Place, d'où sera lancé un feu d'artifice. Et un sapin de Noël de 25 mètres de haut sera illuminé sur cette place dès ce soir. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 23 degrés, Adélaïde 20 degrés, Melbourne 17, Hobart 14 degrés, Canberra 21 degrés, Wollongong 23 degrés, Sydney 25 degrés, Newcastle 26, Brisbane 30 degrés, Cairns 33 degrés et Darwin 31 degrés. Fin de ce journal, à présent un rappel des titres. La population du Victoria vote ce samedi. Et en France, le ministre de l'Intérieur appelle des gilets jaunes à respecter les consignes de sécurité. Et l'Espagne pourrait devenir une menace inattendue pour l'accord sur le Brexit.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.